Hello, friend.
Il t'a déjà baisé ici sur le canapé?
Non, pas encore.
Jan, director inside sales. They call me Jan the man.
Oh. When you say people, you mean companies, right?
Actually, no, sorry. Jan the man. By people, I do mean people, humans, consumers.
Cocksucker!
Yeah, glad to tell you that fucking word.
I'll tell you what I think. Wanna know what I think, Fox?
I'm hanging on it.
Are you? I think you're upset about the shushing. I think you were pissed off about the Hitler mustache on your father-in-law. I think you shook up that can of soda on purpose. And I think you're clomping now, and you've made up some bullshit excuse about your feet, and it's all under the guise of Parkinson's. That's what I think.
Rouge, c'est non. Double rouge, c'est double non.
The situation's a lot more nuanced than that.
Appreciate you think I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks like me for the rest of your life.
Ah! You know, everyone says it's not supposed to make sense, like, that's the whole point, dude. And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling. Just don't sell me shite and tell me it's gold, all right? I might be stoned, but I'm not high, you know what I mean?
We are God, we're as God, we are as
Are you an idiot?
No, sir, I'm a dreamer.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Sarifolie, à l'épisode 14 de la saison 4, c'est maintenant et nulle part ailleurs. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Bienvenue derrière le micro. On va parler séries télévisées comme chaque semaine avec un petit rituel, hein, on le sait maintenant. C'est d'abord la revue avec toi des dernières nouveautés que tu as pu visionner pour nous.
Oui, nouveautés plus ou moins. Hein. Disons qu'elles sont sorties il y a pas si longtemps que ça, mais malgré tout ici, puisque on est après les vacances, après bilan, je vais te proposer trois séries que j'ai eu le plaisir de continuer pendant la pause de Noël. Oui, c'était bien ça. Et donc, je n'ai pas vraiment de mauvaises séries à te proposer.
Mais que... peut-être pas d'excellentes non plus.
Alors, c'est vrai, pas d'exceptionnelles, pas des qui m'auront renversé non plus, mais des séries suffisamment plaisantes, en tout cas, pour que j'ai eu envie de les continuer jusqu'ici, et probablement que je continuerai jusqu'au bout.
Bon, commençons voilà. Par la première.
On va commencer par la première, il s'agit de Shooter. C'est une série qui est proposée sur Netflix et qui vient à l'origine du network USA. Alors, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un complot.
Le complot.
Ouh là là, un complot. Nous avons un tireur d'élite retraité qui va être contacté par un de ses anciens camarades, frères d'armes, hein, comme on dit, pour l'aider à envisager comment pourrait se prévoir une tentative d'assassinat sur le président des États-Unis, vu que des menaces ont été proférées à son encontre, afin justement de pouvoir éviter le dit assassinat. Bon, je veux pas tout te spoiler, mais c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Il va se retrouver pris dans un piège et donc forcé à fuir alors qu'il est devenu le criminel le plus recherché des États-Unis.
Okay.
Mais heureusement, c'est un militaire hyper entraîné et en plus c'est un des tireurs d'élite les plus doués de sa génération. Donc malgré tout, il a quelques atouts dans sa poche. Hein. Il faut pas trop s'inquiéter pour lui non plus. Ça va et en plus il a des connaissances plutôt intéressantes aussi en la matière. Donc il y a quand même de l'espoir pour lui. Pourquoi est-ce que j'ai aimé cette série? Parce que vraiment, on se prend très vite au jeu. Il faut avouer qu'au tout début, on a la mise en place très très traditionnelle, le bon père de famille avec la jolie et gentille petite femme et la jolie et gentille petite fille qui évidemment vont se retrouver mises en danger à cause de ce complot horrible qui a été fomenté contre lui. Donc pour ça, c'est très traditionnel et ça peut au départ sembler ennuyeux, mais finalement c'est relativement vite évacué, même si c'est vrai qu'on peut toujours critiquer le fait que l'enjeu reste toujours un petit peu banal à ce niveau-là. Mais l'histoire se renouvelle assez bien d'épisode en épisode. Il a pas mal de ressources malgré tout dans sa manche, le monsieur. Et donc, on se plaît à aller rencontrer des groupes paramilitaires privés au sein de certains États américains ou ce genre de personnages-là qu'on peut imaginer dont recèle le territoire et qui sont finalement assez peu représentés.
Oui, donc c'est justement, j'imagine que ça peut exister, mais moi le peu que j'en ai vu de cette série, je pense que c'est un épisode où ils se font un peu la chasse à court, en gros, ouais, entre eux sur le territoire américain, je pense.
C'est
un peu, je sais pas, ça me paraît un peu extraordinaire.
Oui, ça, d'accord, c'est vrai. C'est pas une série extrêmement réaliste. Il y a beaucoup de raccourcis, il y a pas mal de choses qui se mettent en place magiquement et assez sympathiquement pour le héros. C'est vraiment une fiction de pur divertissement. Il faut pas vraiment pas le prendre dans le sens casse la tête où il faut chercher la signification profonde de ce qu'on est en train de nous raconter, ni la réalité qu'on est en train de nous représenter.
Okay.
C'est purement à prendre au premier degré. On s'amuse bien.
On s'amuse.
Oh, écoute, en tant que téléspectateur, on n'est pas vraiment en danger, donc ça va aller pour
nous. Non, mais bon, voilà, il se tire quand même dessus. Il y a quand même beaucoup de morts dans l'histoire, hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que à ce niveau-là, on peut pas dire que ce soit le héros qui évite qu'on évite à tout prix de mettre dans la situation où il doit tuer un de ses adversaires pour s'en sortir. Quand il doit tuer, il tue. Il y a pas de contournement de ses difficultés à ce niveau-là. Bon, je sais pas du tout où ça va mener, hein. Si ça tombe, je vais être très déçu par la fin, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est plutôt agréable à suivre. Voilà.
Sans plus. Alors, une petite deuxième pour la route.
Deuxième série que j'ai continué à suivre, il s'agit de Good Behavior. Alors, c'est une série, cette fois-ci, diffusée sur la TNT. Qui nous propose de suivre une jeune femme alcoolique et droguée repentie qui se fait une spécialité la plupart du temps d'être une arnaqueuse et une voleuse assez douée, une menteuse aussi très très douée. Son grand drame, c'est qu'elle a un fils qui lui a été enlevé lors de sa période de grande addiction. Donc elle n'a plus vraiment le droit de l'approcher. Et donc il y a tout un parcours pour essayer de pouvoir à nouveau avoir accès à cet enfant. Elle va rencontrer sur son chemin, et ça c'est dès le premier épisode, un tueur à gages.
Original.
Oui, plutôt original, avec lequel elle va finir par nouer une relation finalement assez intéressante, pas du tout simple ni clair en soi, mais qui peut être très ambigu dans la manière où on a à la fois mêlé une forme probablement de crainte et en même temps de véritable affection. Et toute cette relation va au fur et à mesure de la série être amenée à se s'intensifier, se complexifier. J'ai trouvé cette relation vraiment pas mal. Et aussi au niveau de l'intrigue, on a un renouvellement des enjeux à chaque épisode qui rend le parcours assez plaisant également. Alors encore une fois, faut pas non plus trop réfléchir au réalisme du récit qu'on est en train de nous raconter. Il y a aussi pas mal de raccourcis et pas mal de choses qui, c'est plus facile d'imaginer que son contrôleur judiciaire, notamment, est facilement manipulable ou ce genre de choses-là. C'est plus facile d'imaginer que on va pouvoir voler de l'argent de manière finalement assez facile. Enfin, ça peut paraître facile, mais en même temps, c'est vraiment agréable de suivre l'évolution de la relation entre ces deux personnages-là. Donc, malgré tout, je la conseille. C'est assez chouette. Et notamment aussi pour son actrice principale, qui n'est autre que l'actrice qui jouait Mary dans Downton Abbey. Pour ceux qui s'en souviennent, je ne connais évidemment pas son nom. T'imagines bien que moi, et retenir les prénoms, c'est quasiment impossible. Mais donc, voilà. Je termine avec la troisième...
Mais si tu le veux bien.
Et dernière série. Cette fois-ci, il s'agit d'une série qui est proposée sur TBS et qui s'appelle Search Party. Alors, ça se présente... on pourrait presque estimer que c'est une dramédie parce que c'est plutôt un format comédie, mais sans non plus être vraiment à se taper les cuisses. On est vraiment sur le format un peu doux-amer, comme ça, de la dramédie. Une jeune femme un peu en quête de sens, va un jour apprendre qu'une fille qu'elle a connue plus jeune a disparu et va se sentir poussée à la rechercher, notamment parce qu'elle pense l'avoir vue dans un bistrot ou quelque chose comme ça. Et donc, elle entraîne son groupe d'amis à aller à une veillée de soutien, à essayer d'enquêter sur la disparition de cette femme-là, etc. Et on la voit vraiment... Sans à aucun moment que ce soit exprimé, on sent qu'il y a une remise profonde en question de la vacuité totale de son mode de vie, quoi. Elle a des amis qui sont totalement superficiels au plus haut degré, qui sont même assez insupportables. Elle a un petit ami assez fade et inexistant, et on sent qu'il y a une sorte d'éveil d'une conscience, alors que au départ c'était pas gagné du tout, et c'est vraiment joliment amené, je trouve. Pour le moment, je n'ai pas encore tout vu, là non plus, je n'en suis que au milieu de la série, mais vraiment c'est plutôt prometteur, et donc ça mérite le coup d'œil, voilà. À nouveau, des trois, je les ai mis plus ou moins dans l'ordre de mes préférences, donc probablement que c'est celle-là qui méritera le plus d'être suivie au final.
Bien, voilà tes petites découvertes des vacances de fin d'année. On va marquer une pause musicale, si tu le veux bien.
Mais je veux bien, oui. On va s'écouter Chasing Cars de Snow Patrol, entendu dans Grey's Anatomy.
We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone.
If I lay here, if I just lay. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world?
Série Folie qui reprend son cours normal après les émissions, en tout cas l'émission bilan de la semaine dernière. On revient avec un sujet du jour abordé par Aurore notamment.
Oui.
Je vais essayer de te suivre. Hein.
Il s'agit donc de l'évolution des personnages.
Bien.
Alors, tu connais ma méthode habituelle. Hein, j'ai un petit peu rassemblé les idées et les échantillons auxquels je pouvais penser une fois que j'ai choisi ce sujet.
Oui.
Et puis mais j'ai essayé de les rassembler de manière plus ou moins cohérente pour en faire des catégories. Et ici, je les ai subdivisés en deux catégories principales, même si on va voir que finalement, c'est loin d'être aussi simple et étanche que ça. Les deux catégories, ce seraient d'un côté les évolutions de personnages qui sont fondées principalement sur le récit. C'est le récit qui fait évoluer les personnages, hein. C'est, soit la volonté de des scénaristes eux-mêmes, ils savent exactement où ils veulent aller, on voit les personnages évoluer en ce sens tout au long de la série, voire éventuellement des saisons, etc. Soit aussi, on a simplement un récit héroïque relativement classique, avec une sorte de prise de conscience progressive par le héros de son rôle et de sa mission, et donc jusqu'à finalement endosser entièrement le rôle qui lui a été imparti par le destin la plupart du temps. Mmh. Donc d'un côté on aurait plutôt cette tendance là et puis de l'autre côté, on en parlera plus tard, une évolution qui, elle, se fait davantage organique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Mais c'est simplement en fonction du caractère des personnages que ceux-ci vont évoluer, mais pas toujours dans le même sens. Hein. Ça se fait au gré des circonstances aussi, etc.
Un peu plus naturellement, moins imposé par le récit.
Un peu plus naturellement, ça ressemble probablement un petit peu plus à ce qu'on peut tous expérimenter. On pourrait se dire, ben finalement, c'est la vie, quoi. Hein. Parfois, il y a des hauts, parfois, il y a des bas pour tout le monde et pour ces personnages-là aussi.
Là, c'est une évolution, on va dire, psychologique ou dans le comportement, mais le simple fait aussi de vieillir, hein, dans certaines séries, est aussi une évolution physiquement.
Oui, oui, bien sûr, mais on y reviendra, ne t'inquiète pas.
Ah, c'est bien, je suis au taquet.
Alors, donc, on commence ici dans cette première partie par les évolutions que j'ai appelées narratives, donc celles qui se basent principalement sur le récit. Alors, il faut faire attention ici à une petite remarque. Souvent, dans le langage sériel, on va pouvoir distinguer les séries qu'on dit plot-driven, des séries qui sont caractère-driven, donc les séries dans lesquelles c'est vraiment le scénario, le récit, l'intrigue qui mène la danse, et puis celles dans lesquelles ce sont les personnages qui mènent la danse. Ici, la distinction que je fais ne correspond pas forcément à ces deux appellations-là. Pourquoi ? Parce que dans les séries que je vais citer parmi les évolutions narratives, on a pas mal de séries qu'on pourrait dire caractère-driven, c'est-à-dire, je donne un exemple immédiatement, ça me paraît plus clair, si on regarde une série comme Better Call Saul, par exemple. Évidemment, on n'est pas encore arrivé au bout, et donc, il n'est jamais exclu de se tromper, mais étant donné qu'on sait quand même où le personnage de Saul Goodman est censé arriver au final, on a une idée de l'évolution. Donc, on sait que le récit qu'on est en train de nous raconter, c'est un petit peu une sorte de descente aux enfers, entre guillemets. En tout cas, on a un personnage qui, au départ, est relativement sympathique et qui, petit à petit, va se plonger de plus en plus profondément dans l'immoralité, dans son sens le plus neutre possible. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur ici, mais purement, simplement pour décrire la chose. Ici, on peut pas vraiment dire que ce soit le récit en lui-même, les événements qui l'amènent à devenir ce qu'il est, mais on sent quand même qu'il y a vraiment dans la l'analyse qui est faite par la série de son caractère, de sa personnalité, une volonté de montrer que c'est vraiment c'est lui quelque part, qui se plonge là-dedans tout seul. Il n'a jamais été obligé par rien,
ouais,
tu vois. Il y a vraiment eu, pour moi, cette série-là n'est pas une série qui est menée véritablement par l'intrigue. C'est pas un destin qui est déterminé par l'intrigue, mais par contre, je le situerai parmi les évolutions narratives. Pourquoi ? Parce que, on a une évolution qui est de manière assez claire, voulue par le scénario, quoi. C'est ça le but, ouais, au départ, c'est de nous montrer cette évolution-là. Et donc, ce sera la même chose aussi pour une série comme Breaking Bad ou comme Sons of Anarchy, par exemple, mm-hmm, où on a aussi la volonté de nous montrer une évolution où on sait quasiment déjà, en commençant la série, vers où on se situe normalement pour la fin, quoi. On est en train de nous présenter une sorte de descente aux enfers, entre guillemets.
Bien, bonne question. Le cas d'un Dexter, par exemple, est-ce que ça rentre dans une catégorie? Est-ce qu'ils savaient vraiment où ils voulaient aller? Parce que quand on voit la fin, on est un peu déçu.
Oui, là sincèrement, est-ce qu'il évolue? C'est plus ça la question qu'il faut vraiment se poser, quoi, parce que...
Idéalement, il aurait dû rester dans la même lignée, mais à un moment, ils le font justement évoluer. C'est là que ça ne va plus.
Oui, oui, parce que justement, ils n'ont pas suffisamment tenu compte de ces caractéristiques essentielles pour le faire évoluer. Et donc, malheureusement, ça a été une évolution totalement artificielle, voulue par les scénaristes, mais qui semblait imposée de l'extérieur, comme ça. Mais c'est vrai que... Si on regarde chaque saison de Dexter, en tout cas au minimum les 5-6 premières saisons, on a quand même l'impression qu'à chaque fois il y a une volonté de sa part d'évoluer dans la mesure où il essaie un petit peu de s'ouvrir vers le monde extérieur, de devenir un petit peu normal entre guillemets. Mais au final, il est toujours ramené à sa nature profonde. Et donc, il n'y a pas vraiment d'évolution. Il y a vraiment une sorte de boucle incessante de saison en saison. En tout cas, c'est vrai que je n'ai pas trop pensé à ce cas-là, mais c'est la première analyse que j'en ferai comme ça à chaud.
Bien.
Bon. J'ai parlé en premier lieu des anti-héros, mais Walter White ou Saul Goodman par exemple, mais c'est vrai qu'évidemment tous les héros classiques rentrent également dans cette catégorie-là des évolutions narratives, où on a vraiment, comme je le disais... Un parcours quasiment préétabli pour chacun d'entre eux. Un dernier exemple qu'on a pu observer récemment et qui suit de manière assez canonique, je dirais, ce modèle-là, c'est par exemple Luke Cage, hein. Évidemment, les super-héros sont toujours assez représentatifs, quoique, hein, on reviendra un petit peu plus tard sur un autre exemple super-héroïque. Mais dans le cas de Luke Cage, on a un personnage qui, à la base, a des super-pouvoirs, donc qui est déjà prédestiné quelque part à devenir un super-héros, mais qui refuse d'endosser son rôle, qui préférerait profil bas et surtout ne pas trop se faire remarquer, essayer d'avoir une vie normale. Seulement voilà, évidemment, les circonstances vont le mener à admettre que, ben non, à partir du moment où t'as un grand pouvoir, tu as des grandes responsabilités, hein, c'est pas nouveau, et du coup, ben, cette prise de conscience progressive va le mener à poser des actes qui vont faire petit à petit de lui ce qu'il est censé devenir, mais on a une sorte de schéma prédestiné ici, qu'on peut imaginer pour beaucoup d'autres héros classiques et traditionnels. Donc ça, c'est vraiment la forme la plus élémentaire de cette évolution narrative. Alors, quand j'ai parlé tout à l'heure du héros de shooter, hein, on peut aussi avoir ce genre d'évolution-là, qui est aussi une évolution narrative, c'est-à-dire on a un héros qui se révèle face à l'adversité. C'est aussi une manière d'évoluer. Là, il n'était pas forcément prédestiné, mais malgré tout, les circonstances vont faire qu'il va être obligé de révéler tout son potentiel héroïque qu'il essayait éventuellement de maintenir en sourdine jusque-là. Mmh. Ça, c'est aussi une possibilité d'évolution. Et puis, on a aussi toutes les séries dans lesquelles on a une évolution des personnages, mais pas tellement dans le sens où il y aurait une sorte de destin qu'il faut finir par accepter avec une prise de conscience, etc. Mais plus dans le sens d'une croissance. Alors, évidemment, ça peut concerner certaines séries dans lesquelles on a des héros adolescents. Hein, on a des héros adolescents parfois qui, petit à petit, au fil de leur évolution au sein de la série, vont découvrir qui ils sont réellement. Ça peut être ça, mais je pense par exemple à une série comme Rectify. Mais dernièrement, nous a vraiment montré un cas typique d'une série qui, selon moi, est une évolution narrative. Il y avait manifestement une vraie volonté de la part des scénaristes, probablement pensée dès le départ, pour nous montrer, et là c'est le cas de chacun des personnages de la série d'ailleurs, une véritable évolution de leur manière d'aborder l'événement tragique qui leur est arrivé, quoi. Et donc c'est vraiment pour ça que la série a tout son intérêt, c'est que on a l'occasion de voir une évolution qui fait plutôt plaisir à voir, tout simplement, hein. Donc voilà, et là finalement c'est vraiment très intérieur, très psychologique, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe, puisque même si c'est vrai que petit à petit il y a une sorte de dévoilement de la vérité également, ce dévoilement de la vérité n'est que très très secondaire par rapport à l'évolution que font tous les personnages en parallèle. Si ce dévoilement n'avait pas eu lieu, probablement que l'évolution des personnages aurait été plus ou moins similaire, quoi. Donc voilà, toutes sortes d'exemples que l'on peut voir d'évolution narrative des personnages. Alors, dans ces évolutions, donc il y a une idée de continuité. Hein, au départ de la série, on n'est pas du tout dans la même situation qu'à la fin, et on a eu une sorte de crescendo dans un sens ou dans un autre, dans un sens positif ou dans un sens négatif, mais en tout cas il y a vraiment une idée de continuité dans l'évolution du personnage, avec souvent une prise de conscience progressive de la part des personnages de leur rôle. Dernière chose, il y a aussi certaines séries dans lesquelles c'est pas tellement que les personnages évoluent, mais les personnages sont agis par les événements qui leur arrivent. Et donc, eux-mêmes, intérieurement, on pourrait dire, pour se référer justement à Rectify dont on vient de parler, c'est pas forcément que eux ils évoluent véritablement dans leur caractère, dans leur psychologie, etc. Mais les événements qui leur arrivent les poussent véritablement à se situer de manière totalement différente. Et donc c'est une sorte d'évolution assez particulière, et je me demande si c'est pas une forme de série qu'on trouve peut-être un petit peu plus justement ces derniers temps. Certaines séries qui peuvent me faire penser à ça, même si évidemment il y a toujours moyen d'en discuter. De la manière la plus évidente, je citerai Fargo. Fargo, où on a vraiment des personnages auxquels il arrive des choses absolument invraisemblables, hein, et ils réagissent, ils ne font jamais que réagir face à ça, et comme ils réagissent généralement très mal, ça va les mener sur un chemin que jamais ils n'auraient pu imaginer. C'est pas du tout dû à leur personnalité au départ, c'est pas qu'ils étaient des gens particulièrement gentils ou méchants, c'est pas qu'ils avaient une destinée décidée d'avance, c'est vraiment qu'il leur est arrivé ce truc-là. Ils ont fait un choix, un petit peu bêtes et voilà, ils ont été totalement entraînés malgré eux par ce qui leur est arrivé. Donc ça me semble être l'exemple le plus évident. Mais quand je regarde par exemple une série comme Game of Thrones, on peut en discuter parce que c'est vrai qu'il y a certains personnages dont on peut avoir l'impression qu'ils ont une sorte de destin et que donc il y a une évolution vers une forme de destinée héroïque. Mais quoique, hein, c'est pas aussi évident que cette évolution soit destinée justement à en arriver là. On a des événements qui arrivent à ces personnages. Ils sont menés à faire des choix également. Pas sûr que ça les mène à une destinée totalement héroïque. Ça peut aussi les mener à une mort totalement idiote ou tragique, quoi. Hein, il y a un sens de l'absurde, de l'absence de choix, de l'absence de sens là-dedans, qui me semble beaucoup plus important que véritablement l'idée de la trajectoire héroïque, quoi, dans Game of Thrones. Même chose pour The Walking Dead. Dans The Walking Dead, est-ce que vraiment il y a une évolution ? Ou est-ce qu'on a juste des personnages qui sont ballottés comme ça par une sorte de coup du sort absolument intolérable ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Alors, une série comme Preacher me semble pourrait aussi rentrer là-dedans. Au départ, je l'avais placé plutôt du côté d'une sorte de prise de conscience héroïque, parce que c'est vrai qu'il y a aussi dans le chef du héros une sorte de prise de conscience nécessaire que il doit commencer à assumer une forme de responsabilité vis-à-vis du pouvoir qu'il a reçu, entre guillemets. Mais en même temps, surtout la fin de la saison apporte une sorte de fatalité absurde comme ça qui remet tout ça en question aussi. C'est pas tellement que ce sont des personnages qui étaient prédestinés à ça, c'est pas tellement qu'il y a une véritable évolution, c'est aussi que ben, ce sont des types finalement relativement normaux, que rien ne prédestinait à ça, et il leur tombe des trucs sur la tête, et puis voilà quoi, on voit ce qu'on fait avec ça. Dernier exemple, Dirk Gently, où là vraiment on embrasse totalement cette idée-là, qu'il nous arrive des trucs, et puis c'est justement toute l'absurdité et tout le côté absolument incroyable de ce qui nous arrive qui finit par avoir un sens, mais après coup. Et ça, c'est aussi intéressant, parce que finalement, ils reprennent exactement ce schéma-là, mais pour le renverser totalement et pour faire de cette absurdité un sens et une véritable évolution des personnages. Intéressant quand même de remarquer toutes ces séries-là dans lesquelles on a des personnages qui sont agis par les événements, on va pouvoir les opposer à une autre forme de série, celle dans laquelle on a vraiment des personnages auxquels il arrive aussi des choses, mais qui prennent des décisions, qui prennent véritablement leur destin en main. Et là, je donne un seul exemple, mais un exemple qui me paraît quand même assez significatif. Jane the Virgin, par exemple. Au départ, il lui arrive un truc absolument, évidemment, inconcevable et assez absurde. Mais il y a vraiment, tout au long de la série, alors qu'il leur arrive à chaque fois des choses absurdes, une volonté de nous présenter une jeune femme qui prend ses décisions, qui prend son destin en main, qui finalement fait avec ce que la vie lui donne, et ça tranche de manière assez radicale avec justement ces autres personnages précédents.
Parfait.
Voilà.
Il est grand temps de marquer une petite pause, si tu le veux bien, avant d'aborder une autre catégorie d'évolution.
Oui, on va s'écouter Manic Monday des Bangles, entendu dans Gilmore Girls.
suite de cette émission Série Folie qui vous parle d'évolution des personnages dans les séries télé. On va parler de l'évolution plus organique.
Oui, opposée ici donc à l'évolution narrative, hein, dans laquelle on a vraiment une volonté affichée de présenter une évolution de la part des scénaristes. Évidemment ici, l'évolution plus organique qui donc fait plus de place, donne plus de place probablement simplement à l'évolution normale d'une personne au cours de sa vie, avec ses hauts et ses bas, en fonction simplement de son caractère. On a évidemment beaucoup plus de discontinuité, c'est vraiment sur cette caractéristique-là qu'on va pouvoir distinguer les deux catégories que j'ai données ici, puisque bah, de l'autre côté, il y avait une volonté de continuité. Ici, eh bien, on va retrouver des séries comme par exemple Oz. Oz qui va nous présenter des personnages a priori plutôt mauvais à la base, hein, mais qui sont toujours en recherche de rédemption avec des rechutes très fréquentes, et puis ils réessaient, et puis ils rechutent, et puis on a comme ça, de la part de tous les personnages principaux, une sorte de va-et-vient, où parfois ils cèdent à leurs instincts primaires qui les ont menés là où ils sont, et parfois, eh bien, ils sont un petit peu touchés par la grâce pendant un moment. Même si, il faut bien l'avouer, même dans cette série-là, étant donné que, ben, comme dans toute série, hein, finalement, il y a un moment où il y a une fin, certains personnages nous apparaissent peut-être comme ayant réussi à obtenir une forme de rédemption. Ceci dit, si la série avait eu une saison de plus, probablement que les personnages qu'on a vus là en état de grâce à la fin de la série seraient replongés, puisque ben, c'est un petit peu le mouvement habituel. Donc ça, c'était un exemple. Une série comme Deadwood aussi nous présente des personnages finalement qui connaissent des formes d'évolution, mais sans qu'il y ait forcément une sorte de schéma prédéfini non plus, sans que tout ait été décidé d'avance et qu'on sache véritablement vers où il se dirige. Parfois ça va dans un sens et puis parfois ça va dans le sens totalement opposé, en fonction à nouveau des nouvelles circonstances, des nouveaux personnages qui arrivent en ville et ce genre de considérations-là. Alors j'avais parlé du fait que souvent les séries qui nous présentent des super-héros nous présentent une forme d'évolution assez classique de la part des personnages. Une série qui ne se situe pas tout à fait dans cette optique-là, j'ai l'impression, c'est une série comme Gotham. Et c'est assez étonnant puisque finalement Gotham, un petit peu comme Better Call Saul, on sait plus ou moins vers où la série est censée arriver, hein, puisqu'on est en train de nous raconter l'enfance de Batman et en même temps les débuts du... ça y est, j'ai oublié son nom, évidemment, le commissaire qui, à l'époque, n'était pas encore commissaire. Bref, donc dans le cas de Gotham, on pourrait penser que toute la série va simplement nous présenter une forme d'évolution nécessaire des différents personnages, puisqu'on sait où ils sont censés arriver. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et même dans les personnages des méchants, hein, par exemple le pingouin, qui est un personnage qui est là depuis le début et qu'on a eu l'occasion donc de beaucoup suivre, on a aussi des va-et-vient en fonction véritablement de leur personnalité, en fonction de leurs angoisses, de leurs souffrances du moment. Mais parfois, ils vont dans une direction et puis parfois, ils vont dans la direction totalement opposée. Donc, c'est loin d'être aussi linéaire qu'on aurait pu s'y attendre. C'est aussi intéressant de le noter. Une autre série qu'au départ on aurait pu imaginer plus classique, c'est une série comme Heroes. Heroes, dans lequel finalement on a des personnages qui se révèlent avoir des super pouvoirs, et généralement ces super pouvoirs déterminent un petit peu l'évolution des personnages. Dans le cas de Heroes, c'est loin d'être aussi évident que ça. La découverte de ce super pouvoir ne préjuge pas de ce qu'ils sont censés en faire, quoi. Et parfois, ils sont plutôt gentils et ils prennent de mauvaises décisions. Parfois, ils sont plutôt méchants et ils finissent par malgré tout nous surprendre. Il y a rien qui est décidé à l'avance. Évidemment, on retrouve aussi des séries plus traditionnel, où on nous présente la vie ordinaire, par exemple une série comme Parenthood, hein, ou Friday Night Lights, où finalement on a simplement la vie ordinaire de gens ordinaires avec des destins qui sont aussi un petit peu brinque-ballés de ci de là en fonction de ce qui peut arriver dans la vie des différents personnages. Alors, pour les séries pour ados, j'avais dit que dans les séries pour ados, on avait une forme d'évolution comme croissance, c'est le cas, mais c'est pas pour autant que toutes les séries pour ados prennent ce modèle-là, c'est pas pour autant non plus que les séries pour ados qui prennent ce modèle-là n'ont pas aussi en leur sein certains moments où elles vont pouvoir aller vers une évolution plus organique. C'est vrai que par exemple, une série comme One Tree Hill, dans laquelle, malgré tout, à la fin de la saison 5, on a un message quand même assez positif, où on dit que finalement, il suffit, si on veut, on peut, et qu'il y a une sorte de destin qui nous attend si on s'en donne les moyens, etc. Mais c'est pas si évident que ça du tout. On peut se poser aussi la question pour Lost. Quelque part, la fin semble déterminer quel était le destin de Jack, par exemple. Hein. Mais tout au long de la série, c'est pas si évident qu'il y a eu une évolution de Jack dans ce sens-là. Ça a été beaucoup moins linéaire que ça. De même, une série comme Desperate Housewives, on pourrait se dire que ces bonnes femmes, à force, ont fini par évoluer, mais ont-elles vraiment fini par évoluer? On a cité tout à l'heure Dexter, on peut le mettre aussi dans ce modèle-là. Autre chose, Downton Abbey. Alors là, oui, il y a une forme de volonté de nous présenter une évolution des mœurs purement historique, mais en même temps, c'est vraiment aussi une volonté de nous présenter une évolution dans laquelle rien ne change véritablement, quoi. Hein. C'est purement un changement très très lent et qui n'est dû vraiment qu'au passage du temps, mais rien ne change fondamentalement, les personnages ne changent pas fondamentalement et les relations entre eux non plus, quoi. Donc voilà.
Et qu'en est-il justement par rapport à ces séries d'ados où, par exemple, on voit aussi des enfants, qu'en est-il du changement physique dû justement à l'évolution de la personne au cours des années?
Si tu veux bien, on va en parler après.
Ce sera dans le prochain point.
Voilà. Parfait. On va s'écouter cette fois-ci In My Secret Life de Leonard Cohen, entendu dans The L Word.
Secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. I saw you this morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much, there's no one insane. And we're still making love secret life, in my secret.
Voici venue déjà la dernière partie de cette émission. On t'écoute, Aurore.
Oui, je vais essayer de conclure super vite puisqu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Alors, je constate, peut-être que je me trompe, mais je constate qu'il y a de la part du public une volonté de plus en plus forte de demander une véritable évolution des personnages. Hein. On en a marre de voir des personnages qui font toujours la même chose, qui sont toujours au même endroit. Le modèle procédural a de moins en moins la cote pour le moment. Et même dans les sitcoms, finalement, il y a une volonté d'exiger que les sitcoms évoluent véritablement. Le prototype, pourtant, c'est quand même la série, un des plaisirs de la série, c'est de nous proposer la répétition du même, encore et encore. Ça fait une forme de familiarité, et on est bien content de les retrouver, mais c'est plus tellement à la mode. Donc le prototype que je qualifierais de Seinfeld Gilmore Girls, hein, l'espèce de monde où rien ne change jamais, est de moins en moins recherché. De toute façon, même dans ces séries traditionnelles, les procedurals et les sitcoms en tête, mais finalement, il y a malgré tout une forme de changement. Une des formes de changement, comme tu as pu le repérer, c'est simplement le fait que les personnages changent, ne serait-ce que physiquement, mais évoluent en âge, etc. Et donc forcément, il va y avoir une exigence à un moment pour les scénaristes de leur donner d'autres choses à faire, d'autres enjeux, etc. Donc à ce niveau-là, il y a une nécessité malgré tout de s'adapter aux personnages. Et puis aussi, il y a certaines séries qui, au fur et à mesure de leur existence, évoluent dans leurs propos. Je pense par exemple à une série comme South Park qui ne nous raconte plus du tout la même chose dans ses dernières saisons que dans les premières, et tout au long de son existence il y a eu une véritable évolution assez fréquente, et donc forcément les personnages évoluent également en conséquence. Je conclurai en disant que, évidemment, en fonction des choix que l'on opère, des évolutions que l'on va proposer, le message que l'on transmet est totalement différent. Dans un cas, par exemple, on va pouvoir proposer un monde dans lequel finalement on a tous une destinée, ou peut-être certains élus auraient une destinée, pourquoi pas. Mais on peut aussi proposer, comme je l'ai dit avec Jane the Virgin, un monde dans lequel non, rien n'est prédéfini, mais on a chacun à poser des choix. Donc il y a une façon plus volontariste et une façon peut-être plus fataliste de voir les choses. Alors cette destinée, ce fatalisme, il peut se faire soit du côté tragique, soit du côté plus positif aussi, et évidemment la tonalité finalement qui sera donnée à l'ensemble du monde qui est proposé ne sera pas du tout la même en fonction du choix qui est opéré. Voilà.
Voilà. Merci Aurore pour cette belle émission une nouvelle fois. Ce sera le mot de la fin. On rappelle que l'émission sera podcastée dans les prochains jours via les réseaux sociaux et surtout le site internet www.seriefolie.be avec SA Série. On va se quitter en musique.
Oui, très peu, hein, puisque finalement, on n'a plus beaucoup de temps, mais un petit extrait de Right Here, Right Now de Fatboy Slim, entendu dans Third Watch, New York 911.
Merci Aurore. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.